La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. Toute l'équipe de La Marche du Monde vous propose une sélection de ses meilleures émissions à écouter ou à réécouter jusqu'au premier week-end de septembre.
Eh bien, Présence africaine, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre d'une équipe. Notre culture, notre histoire était méconnue, voire bafouée dans la culture universelle.
Dans Paris, libéré de l'occupation nazie, les intellectuels noirs réinvestissent le quartier latin et s'interrogent. Bien que la France se soit battue pour recouvrir sa liberté, elle maintient dans son empire un système colonial oppressif et raciste. Mais comment lutter ? En sortant de l'ombre, répond Alioune Diop, avec Senghor, avec Césaire, avec Camus ou Jean-Paul Sartre. Alors que la négritude est encore un concept méconnu, Alioune Diop nourrit le projet d'une revue. Ce sera Présence africaine. Il veut mettre en lumière toute la diversité des intellectuels noirs, car il sait que tous doivent s'unir autour d'une même cause. Noir et notre cause, c'est une série de 3 émissions que je vous propose dans La Marche du Monde, écrite avec Amaury Auchard et mise en onde par Cécile Pompéani. Premier épisode, Génération Nègre ou la genèse de Présence africaine.
Entre la rue Descartes, des premiers temps, jusqu'à la rue des Écoles, c'était notre premier territoire libéré. C'était le coin des nègres, des Africains, des intellectuels. On venait chez nous. Le quartier latin nous appartenait. Personne n'était étonné de nous voir grouiller la nuit, le jour, dans les rues du quartier latin qui étaient devenus des villages africains.
Paulin Joachim, poète béninois.
Alioune Diop était... C'était lui qui nous calmait. Nous étions bouillants, chauds, jeunes... Et c'était lui qui nous apaisait, parce que c'était un homme silencieux, qui n'aimait pas de bruit. On le disait discret. Non, c'est une timidité. Sa vie était intérieure. Sa vie était intérieure. Il était fait pour être un religieux. Mais il est devenu le prêtre de la culture négro-africaine, ce n'est pas mal.
Le sourire malicieux de Paulin Joachim, interviewé par notre invitée historienne, Sarah Friou-Salgas, responsable des archives du musée du Quai Branly. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Et merci de partager avec nos auditeurs vos trésors d'archives que nous pouvons conjuguer avec les nôtres. Ces voix, c'est une autre façon pour l'historienne que vous êtes d'écrire justement cette histoire de la culture noire.
Oui, c'est des témoignages nécessaires et indispensables à une période qu'on a un petit peu oubliée, à mon avis. C'est la prise de parole des intellectuels dominés, hein, parce que c'est 47, hein, la naissance de la revue Présence africaine. Des témoignages souvent oubliés, un peu moins aujourd'hui, qu'on se réapproprie, mais c'est toujours très agréable de les entendre.
Paulin Joachim insiste sur la singularité de la personnalité d'Alioune Diop. Un jeune homme timide, dit-il, mais charismatique. Il parle aussi du fait qu'il aurait pu devenir prêtre. Comment vous pourriez définir les croyances d'Alioune Diop à l'époque? Quel est son rêve?
Son rêve, c'est que l'Afrique rentre dans l'histoire, hein, qu'on reconnaisse les Africains comme étant des hommes, quoi, parce que l'argument colonial, quand même, est d'une violence extrême. Et même lui, si je pense, n'a pas vécu directement cette violence-là, vu le milieu social dans lequel il a évolué, il sait qu'il faut prendre la parole et il faut changer les choses. Alioune Diop sait qu'il a un rôle à jouer, c'est le rôle de fédérateur, de quelqu'un qui va essayer de réunir les paroles de tous et ensuite de donner la parole dans une revue à tous ceux qui voudront vraiment parler des cultures noires, du fait que l'Afrique a une histoire. Et c'est l'enjeu culturel qui va d'abord être un petit peu son argument, mais une telle volonté, c'est évidemment un acte politique très fort.
Ça veut donc dire, Sarah Friou-Salgas, qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle d'ailleurs les tirailleurs africains en général ont participé, dont Alioune Diop, on n'a pas droit de citer, on ne peut pas prendre la parole, on est des Français de seconde zone, c'est encore la colonisation, on ne peut pas s'exprimer.
prendre la parole dans ce contexte-là, c'est... moi, je pense que les intellectuels africains ou les militants ont pu plus ou moins la prendre jusqu'ici, mais c'est la prendre autrement, vraiment la prendre les choses à bras-le-corps. Cette prise de parole, c'est une réaction aux argumentaires coloniaux qui sont de dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, que la France est un pays civilisateur et une référence. Et l'idée d'Alioune Diop, c'est de dire... Vous nous dites qu'on n'a pas d'histoire, mais on va vous montrer qu'on a une histoire. On va vous le démontrer à travers des textes historiques, qu'on a des poètes aussi importants et aussi nécessaires à une vie intellectuelle mondiale, que les Africains font partie de l'histoire.
Alors en 1940, Alioune Diop a donc 30 ans. Il est né en 1910 à Saint-Louis du Sénégal. Il est brillant, il est parti étudier à l'université d'Alger en lettres classiques. Ils sont très peu à l'époque. Et d'ailleurs, Albert Camus, là aussi, il étudie à l'université de lettres d'Alger. Et Alioune Diop vient à Paris pour poursuivre ses études. Il est un chrétien, on l'a dit, il est un universitaire. Il est également un homme engagé politiquement, puisqu'il adhère à la SFI, ou la section française de l'Internationale ouvrière, jusqu'à ce qu'il crée Présence africaine, dont il prend la direction. Écoutez la voix d'Alioune Diop dans La Marche du Monde. Il revient sur la genèse de Présence africaine dans la France occupée des années 40.
C'est une revue. C'est aussi un mouvement. Parce que ce qui nous avait incité à créer cette revue, c'est d'avoir constaté sous l'occupation allemande à Paris combien notre culture était absente de la culture dite universelle, combien nos grands hommes, notre histoire était méconnue, voire bafouée dans la culture universelle. Nous avons constitué un groupe très modeste au départ, comprenant des étudiants francophones, bien sûr, noirs, maghrébins même, indochinois. On était simplement un groupe d'étudiants coloniaux. C'était donc une rencontre de solidarité et d'entraide. C'était aussi une rencontre de concertation entre intellectuels. À cette époque, la France était humiliée, sa culture bafouée, les grands auteurs et les grands philosophes juifs exclus de l'enseignement et de la diffusion des œuvres, et les dirigeants français, ceux qu'on appelait les directeurs de pensée, étaient poursuivis, chassés ou emprisonnés, beaucoup d'entre eux du moins. Et alors, nous nous sommes réunis pour savoir quelle était la situation de la culture négro-africaine et quel pouvait être son passé, sa grandeur et son avenir.
C'était à cette époque justement que j'ai rencontré Alioune Diop, et j'avoue que c'était pour moi une chance, parce que quand j'étais encore à Madagascar, je n'avais pas eu du tout l'idée du problème qui nous occupait en ce moment-là.
Jacques Rabemananjara, écrivain malgache, militant anticolonialiste.
C'est la rencontre avec tous ces étudiants dont parlait Alioune Diop et qui m'a permis d'avoir une prise de conscience de moi-même et de la situation dans laquelle se trouvait effectivement l'homme noir. Le fait que nous étions absents de l'histoire, absents de la civilisation, il faudrait se demander pourquoi nous étions des hommes comme les autres. C'est qu'il y avait un fait, on a méprisé ce qu'on appelle le noir. On ne reconnaissait même pas la quelque contribution que nous aurions pu apporter à la marche, n'est-ce pas, de l'histoire humaine.
C'est ainsi que nous avons commencé.
Alioune Diop.
Nous avions régulièrement, pendant 2 ans, sous l'occupation allemande, 3, 4 ou 5 réunions par semaine, sur différents sujets, nos lectures, les livres qui paraissaient, etc.
C'était des débats, et finalement on dit, mais pour nous affirmer, il faut donc que nous soyons présents à l'histoire. Je me souviens à l'une qui disait, au fond, ce n'est pas que nous n'avons pas d'ancêtres, mais nos ancêtres n'ont pas émergé dans l'histoire. Et nous-mêmes, au fond, on nous a effacés, nous sommes tous des Français. D'où les choix d'Alioune. Nous allons faire une revue, nous allons l'appeler Présence africaine, c'est-à-dire marquer notre présence dans l'histoire.
Eh bien, Présence africaine, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre d'une équipe. C'est une revue. C'est aussi un mouvement.
C'est un peu ça peut-être qui fait l'originalité d'Alun Diop. Parce que nous, les jeunes intellectuels en question, nous étions là pour faire nos études avec un but précis, c'est de jouer un rôle de dirigeant dans nos pays. Mais aucun d'entre nous n'avait cette espèce de préscience d'Alun en disant que c'est la culture qui doit primer avant les autres choses, avant la politique. Lui, il avait déjà ça dans la tête.
Jacques Rabbemananjara est un futur héros de la lutte pour l'indépendance malgache. À cette époque, il est étudiant en Sorbonne. À Paris, il est donc, dans ses années 1940, auprès d'Alun Diop, Sarah Friou-Salgas. Mais alors pourquoi les étudiants se regroupent-ils autour d'Alun Diop, lui-même déjà héritier de la négritude, imaginée par Senghor et par Césaire?
Déjà, moi, je pense que sur la période des années 30, hein, donc qui précède la naissance de présence africaine, en fait, la négritude, ce n'est pas que Césaire, Senghor et Damas.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est?
La négritude, c'est réutiliser ce mot nègre. Hein, c'est aussi l'envoyer à la figure du blanc, du colonisateur. Et cette réutilisation du mot nègre, la violence raciale hein, de ce mot, ils ne sont pas les premiers à l'utiliser. Il y a beaucoup d'autres militants, toute une presse noire, africaine notamment, qui existe à Paris et qui va jouer aussi sur les mots. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement Césaire, Senghor, Damas vont aussi, c'est un contexte politique très fort, qu'eux vont se l'approprier avec leur bagage culturel et c'est un mix de tout ça. Et je pense que Alun Diop est finalement l'héritier de ça, de cet héritage culturel et politique qu'il connaît bien parce qu'il a eu accès à cette presse-là au Sénégal, hein, où il était dans les années 30, par les marins qui diffusaient cette presse noire, comme le journal Le Cri des Nègres, La Voix des Nègres ou autre, qui était une presse assez radicale, souvent associée au Parti communiste. Donc Alun Diop, il est un peu l'héritier de tout ça, de la négritude, de ce fameux numéro hein, de 1935, L'étudiant noir, hein, la référence quand on parle de la négritude, et de tous ces journaux militants des années 30. Et lui, avec présence, il a un peu tout ça dans la tête, même s'il parle tout le temps de quelque chose de culturel. C'est culturel et le politique, c'est indissociable, et son engagement est politique, même s'il veut le...
Par le biais de la culture.
Par le biais de la culture, exactement.
...1945, Paris est libéré et Alun Diop part sur Dakar, la capitale de l'Afrique occidentale française, car il est nommé directeur de cabinet du gouverneur général de l'AOF. Il a 35 ans et ne perd pas de vue son projet de maison d'édition des cultures noires.
Lorsque je suis allé à Dakar, à la demande de Lamine Gueye et de Senghor, pour travailler dans le cabinet du gouverneur général Barthes, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que parmi les responsables, les hautes personnalités de Dakar, il y en avait quelques-unes qui seraient disposées à aider financièrement au lancement de la revue.
Je suis allé résider chez Alun et Christiane Diop à Dakar, ville coloniale française, en 1946.
Georges Ballandier, ethnologue et sociologue français.
D'abord, c'était une atmosphère fabuleuse. Alun recevait qui venait là, les grands imams de Dakar, qui venaient chez ce chrétien. Mais alors les conversations étaient prodigieuses. Et puis venaient les intellectuels, notamment Léopold Senghor. Cet homme m'impressionnait, je le voyais comme un grand personnage de la culture africaine dans ce qu'elle a de plus riche, de plus sophistiqué, et sur de la culture française en ce qu'elle a de plus libre, puisqu'il s'agit de poésie, comme c'était le cas pour Césaire. Puis il y avait aussi des politiques, tout de même, qui commençaient à poser les questions de l'indépendance, ou en tout cas de l'autonomie. Et très curieusement, aussi bien Alun que Senghor posaient le principe que l'émancipation serait culturelle d'abord, qu'il fallait libérer des esprits pour pouvoir libérer des corps et des rapports sociaux.
Et c'est à mon retour à Paris,
Alun Diop,
que l'idée a pris corps réellement, et que j'ai pu rejoindre ceux que nous appelions en 41-42 nos maîtres à penser pour leur demander de nous soutenir dans notre désir de créer une revue. Il s'agit de Jean-Paul Sartre, Emmanuel Mounier, Albert Camus, Masson Oursel, Marcel Griol, Hippolyte, spécialiste de Hegel, Louis Lavelle, Le Sen, Michel Léris et beaucoup d'autres.
Je crois que la notion de grande puissance impériale est aujourd'hui un peu partout et pour tous les pays colonialistes morte. Et je pense que la France doit d'abord prendre parti de ce fait. Avant de déclarer qu'on est colonialiste ou anticolonialiste, il faut prendre les faits comme ils sont.
Jean-Paul Sartre s'exprime en 1950 sur la question de l'avenir de la France. Une grande France qui s'oppose par les armes à l'indépendance de ses colonies indochinoises.
Du fait que ces colonies, en tant que colonies, partout, n'attendent qu'un signe pour passer à la révolte. Du fait que s'il y avait une guerre, par exemple, aujourd'hui, il est très certain que l'ensemble de l'Empire français se transformerait en Indochine. Par conséquent, partons de là.
Ces hommes étaient pour nous les autorités culturelles de la culture française. Nous avions besoin d'eux comme témoins. En tant qu'écrivains, en tant que philosophes, ces hommes avaient été invités par nous en 1941-1942 à prendre la parole devant les étudiants africains. Et notre méthode consistait à lire l'œuvre d'un écrivain ou d'un penseur jusqu'à ce que nous trouvions un passage dont le développement aurait conduit à l'appui à tout mouvement de décolonisation, à la libération de nos colonies. Et nous invitions l'écrivain à disserter à partir du thème choisi par nous, et cela aboutissait généralement à la condamnation du système colonial.
Alioune Diop, intellectuel noir dans la France encore coloniale des années 40 et 50, fédère autour de lui des étudiants africains venus étudier au Quartier Latin, mais aussi les pères de la négritude, Césaire, Senghor, mais aussi des intellectuels français aussi prestigieux que Jean-Paul Sartre, pour retrouver et diffuser la culture noire. Mais je vous pose la question, Sarah Friot-Salgas, pourquoi Jean-Paul Sartre, Marcel Griaul ou encore Albert Camus soutient-il Alioune Diop dans un tel projet de revue noire pour les Noirs?
À mon avis, ce qui est intéressant, c'est de resituer d'une certaine manière présence africaine dans un contexte finalement intellectuel plus général de l'après-guerre, où il y a énormément de revues qui vont se créer. Donc finalement, présence participe à une aventure éditoriale commune à la France. Il y a les temps modernes qui vont apparaître juste après-guerre aussi, hein, et qui vont s'engager très vite, qui vont publier des textes d'auteurs africains. D'auteurs africains-américains notamment vont traduire des textes de Richard Wright, etc. Il y a les éditions du Seuil qui vont publier aussi des tas de choses, la revue Esprit. Finalement, les gens à qui ils s'adressent sont des gens qui commencent leur engagement anticolonialiste, et en s'engageant auprès de présence africaine, c'est comme aujourd'hui on signe des pétitions. Pour moi, le premier numéro de présence, c'est la première grande pétition anticolonialiste d'après-guerre signée par les grands intellectuels. Dans les signataires, dans les intellectuels qui soutiennent présence africaine, on trouve André Gide qui, dès l'entre-deux-guerres, avait écrit des textes dénonçant la violence coloniale. Donc en fait, il va aller fédérer les gens qui étaient prêts à être fédérés. Et tout le monde va s'engager auprès d'un intellectuel africain qui vient les chercher. Je pense que ce premier numéro est vraiment extraordinaire. Il dit tout sur l'après-guerre. Et c'est un contexte éditorial un peu général en France. Et c'est pour ça que ce qui m'intéresse dans l'histoire de présence africaine, c'est l'histoire intellectuelle des Africains, des Antillais, des Africains-Américains, dénonçant la violence coloniale, la violence raciale aux États-Unis. Mais c'est aussi une histoire éditoriale française. Donc c'est ça l'intérêt et la force de cette revue.
À l'occasion de la fondation de Présence africaine, nous avons demandé à son fondateur, M. Alioune Diop, de vous dire quelques mots sur les buts et la signification de cette nouvelle revue.
Tout d'abord, cette revue s'exprimant en français assurera un enrichissement de la langue française. Les auteurs sont des Noirs.
Et à la même époque, je voyais souvent au Quartier Latin Léon Gontran-Damas, François Fanon. Le bouche à oreille fonctionnait parmi les étudiants aussi au Quartier Latin. C'était un peu un événement, une revue qui porte le nom de présence africaine allait paraître à Paris.
René de Pestre, poète et écrivain haïtien, témoigne de la naissance de présence africaine, annoncée à la radio aux actualités, dont le premier numéro paraît à la fin de l'année 47. Et c'est à suivre dans La Marche du Monde sur RFI.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de notre série Noir et notre cause et de son premier épisode Génération nègre ou la genèse de présence africaine.
Il y a eu un mot d'André Gide qui a servi de préface au premier numéro de présence africaine et il disait les peuples dits civilisés ne se penchent vers le monde noir que pour l'exploiter. Nous pensons qu'aujourd'hui, ces anciens ignorés, foulés aux pieds, ont quelque chose à nous dire. Et nous devons les écouter. C'était les premiers mots de l'avant-propos d'André Gide en 1947.
Novembre 1947, Alioune Diop lance la revue Présence africaine. Paulin Joachim, futur journaliste béninois, et Roland Collin, futur directeur de cabinet du Premier ministre sénégalais Mamadou Dia, sont tous les deux étudiants à Paris à cette époque.
Alioune Diop, je l'ai rencontré en 1948. Et à partir de là, il nous a expliqué ce qu'était son projet à travers la création de Présence africaine, rassembler des jeunes intellectuels africains, jeunes ou moins jeunes, de façon à montrer que l'Afrique était en mesure d'avoir une création à part entière. J'étais élève à l'école de la France d'Outre-mer. Nous avions monté, nous les élèves, un cercle d'études africaines à l'école pour préparer notre départ. C'était dans le climat de la fin de la guerre où, effectivement, la perspective de la décolonisation commençait de s'amorcer. On ne savait pas encore quelle forme elle prendrait, mais nous étions quelques-uns tout à fait décidés à participer à cette aventure de la décolonisation et pas simplement d'être les représentants d'un pouvoir colonial. Dans ce cadre-là, nous avons invité Alioune Diop un soir, au foyer de l'école. Alioune s'exprimait d'une voix assez douce. Nous avons parlé de la colonisation et de la décolonisation. Et nous avons parlé surtout de la culture africaine, qu'Alioune et l'équipe de Présence africaine, avec aussi Senghor et les gens de la négritude, si on peut dire, se proposaient d'éclairer sous un jour libérateur. Et je me souviens, nous étions impressionnés par la présence de cet homme d'allure un peu austère, mais dont on mesurait très très vite qu'elle recouvrait une profondeur de pensée et une sensibilité tout à fait vive et créative. Et effectivement, le lancement de Présence africaine a été vraiment flamboyant. C'était vraiment la mise en lumière de ce que pouvait représenter la créativité culturelle de l'Afrique.
Roland Collin nous livre un souvenir ému du lancement du premier numéro de Présence africaine à Paris, Sarah Friou-Salgas, et pour cause, ce premier numéro est préfacé par André Gide, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on y retrouve bien sûr des textes d'Alioune Diop et de ses pères africains, mais aussi la signature de Richard Wright, figure phare de la littérature noire américaine, traduit par le non moins brillant Boris Vian. Alors revenons sur ce numéro 1 qui finalement fédère bien au-delà du quartier latin, bien au-delà des intellectuels français, bien au-delà des intellectuels africains noirs qui sont à Paris à ce moment-là. Les Afro-Américains en sont aussi.
Oui, parce que Présence africaine s'inscrit dans une histoire aussi plus globale. Là, on entend beaucoup parler de l'Afrique, mais Présence africaine, c'est aussi les Caraïbes, c'est aussi l'océan Indien, c'est aussi les Africains américains, en effet. Et donc, tout ça, ça s'inscrit dans un combat panafricain qui a commencé à la fin du 19e. Hein. Et d'ailleurs, dans le premier numéro, il y a un texte de Blyden, Edward Blyden, qui est un des pères du panafricanisme, hein, qui a écrit des grands textes à la fin du 19e. Donc, c'est vraiment Quand Alioune Diop décide de publier aussi un texte de Blyden, c'est s'inscrire dans cette histoire-là, hein, qui date fin 19e, début 20e. Je pense que la force de présence, ça on le voit petit à petit, c'est de jouer le rôle de traducteur, de traduire des textes d'auteurs africains qui écrivent en langue portugaise en français, de traduire des textes d'auteurs africains qui écrivent en anglais en français, enfin vraiment de jouer le rôle de passeur de textes dans toutes les langues. Et ça, c'est aussi une des forces d'Alioune Diop, et qui l'inscrit dans le panafricanisme.
Le mot central pour Alioune Diop, c'est ce mot de culture. Mais en même temps, Sarah Friot-Salgas, on se rend bien compte que ce travail d'émergence de la culture noire, c'est un travail qui sert une cause, et que la cause des Noirs, c'est aussi la cause anticoloniale. Comment est-ce reçu par ceux qui ne sont pas d'accord avec cela, qui ne veulent pas transformer l'ordre établi?
À mon avis, l'intérêt, enfin la stratégie d'Alioune Diop, c'est de parler justement qu'en termes de culture. Dans les premiers numéros, il ne va pas utiliser le terme décolonisation. Il veut juste qu'on reconnaisse les cultures noires, en fait. Donc les premières années, pourtant, il va vraiment publier un certain nombre d'articles et d'auteurs violemment anticolonialistes. Mais comme ses introductions, etc., ça va toujours être autour de la culture. Il va pas être censuré. En gros, il aurait pu être censuré. Hein. Et quand on lit les numéros, notamment en 53, il donne la parole à des jeunes étudiants, vraiment, et qui publient des poèmes très, très durs, comme ça. Il sera jamais censuré parce qu'il aura toujours vraiment l'argument culturel. Et ça, ça fait pas peur encore, l'argument culturel.
Et ça fait peut-être d'autant moins peur que, d'une certaine façon, ce sont des gens invisibles.
Oui, c'est des gens qu'on voit pas, en effet, aussi.
Qu'on ne veut pas voir.
Et... À l'époque, je suppose que l'État français s'intéressait plus à l'engagement des intellectuels français contre la colonisation, plus qu'on n'imagine pas qu'en effet, des intellectuels africains puissent prendre la parole.
Alioune Diop invente Présence africaine, une revue nécessaire où la diversité des productions de culture noire, qu'elles soient littéraires ou historiques, vont pour la première fois être publiées et diffusées.
Il s'agit avant tout d'apporter dans le creuset de la pensée et de la technique européenne des pensées nouvelles, des accents de sensibilité nouveaux, inconnus ou mal connus.
Et quelle n'a pas été ma surprise à la fin de 1947 de recevoir une lettre d'Alioune Diop lui-même où il m'invitait à rejoindre l'équipe de rédaction de la revue.
René de Pestre, écrivain et poète haïtien.
Moi, j'étais abasourdi parce que je vivais à la Cité universitaire de Paris et je faisais Sciences Po. J'étais étudiant à la Sorbonne également, je faisais une licence de lettres classiques. Il n'était pas question pour moi de collaborer à une revue, étant donné la ténuité de mes connaissances, surtout quand j'ai vu le comité de soutien dont il s'était entouré, où figurait André Gide, Michel Léris, Emmanuel Mounier, Pierre Naville, Camus, Sartre, c'est-à-dire les sommités de la vie intellectuelle française étaient présents dans la revue, ce qui de la part d'Alioune était une prouesse. Donc j'ai dit à Alioune que je me sentais très honoré par sa proposition, mais qu'il fallait attendre que je termine mes études dans quelques années.
Délicieux, René de Pestre, qui dans cet entretien qu'il vous avait accordé, Sarah Friot-Salgas, rappelle combien le projet d'Alioune Diop pouvait être à la fois enthousiasmant, mais aussi écrasant finalement hein, pour les jeunes auteurs. Il fallait penser la culture noire, il fallait écrire des textes pour la revue dans laquelle il fallait tout inventer. Il fallait inventer l'histoire, il fallait inventer la littérature, la musique, la philosophie, autrement dit cette culture noire. Mais ce qui est très intéressant quand on vous lit Sarah Friot-Salgas, c'est que vous expliquez que ce n'est pas pour autant que l'on rejetait la culture occidentale.
D'ailleurs, le tout premier projet de présence africaine devait avoir lieu à Dakar et devait s'appeler Découverte. Donc, Découverte de l'autre, permettre qu'on puisse nous découvrir et découvrir l'autre, etc. Et ensuite, c'est devenu présence africaine. Donc, c'était vraiment l'idée, en effet, de fédérer tous les discours pour défendre les cultures noires, quelles qu'elles soient.
Contre
l'autre, c'est se construire avec l'autre, avec ceux qui sont prêts à participer à une aventure commune. C'est une aventure
collective.
Et d'abord
avec la langue française.
Avec la langue française, et pas que d'ailleurs, avec des traductions, etc.
Mange pour vivre, c'est la maxime du directeur de présence africaine Alioune Diop. Et Roland Collin évoque justement sa découverte du tout premier numéro de présence.
Dans ce numéro 1, là, il y avait un article liminaire d'Alioune Cet article liminaire prenait métaphoriquement l'image de la nécessité pour l'homme de se nourrir de la culture. Et il avait pris un proverbe peul, Nyam gura vana nyam paya, ce qui veut dire mange pour vivre et non pas pour que tu gagnes du poids, que tu engraisses. Très symbolique. Et il y avait aussi, bien sûr, Théodore Monod et puis André Gide, qui avait apporté tout le poids de sa gloire littéraire à cette entreprise-là. Gide qui, 20 ans auparavant, à la suite d'un voyage emblématique au Tchad et au Congo, avait lancé un brûlot dans la sphère politico-littéraire en publiant « Voyage au Congo et retour du Tchad » où il dénonçait les abus de l'exploitation coloniale. Donc, Allioune insistait beaucoup là-dessus. Il s'agissait de ménager pour l'Afrique une présence dans le monde, et une présence différente de celle à laquelle elle était confinée au temps de la suggestion coloniale, véritablement. Ça, je crois que la présence africaine était un outil absolument majeur dans cette démarche-là.
Aussi peut-être rappeler, je crois que je peux le faire sans narcissisme, que j'ai contribué évidemment au numéro 1 de la revue, à sa sortie.
Georges Ballandier, ethnologue français.
Et que j'ai contribué par un texte qui se voulait une proclamation d'une certaine manière, puisque j'avais donné au titre de ma contribution, le noir est un homme. Ce qui était une façon d'indiquer que le noir n'était pas du tout une sorte de personnage inférieur, pris dans des cultures inférieures, mais qu'il est un homme et qu'il apporte ce que toute humanité, dans sa singularité, dans sa force propre, apporte. Et il y avait ce souci de démonstration. Il faut bien remettre ça dans le contexte. Les années immédiates de l'après-guerre étaient encore des années, que je dirais, coloniales. Elles maintenaient l'administration, même s'il y avait des fissures. Et la fissure d'Acaroise en était une. Mais il y avait le maintien d'une présence encore coloniale. Et puis surtout, il y avait encore la présence des guerres, qui étaient des guerres de maintien du rapport colonial. Qu'il s'agisse de la première guerre d'Indochine, ou qu'il s'agisse, à partir de 1954, de la guerre d'indépendance d'Algérie, il y avait tout de même un contexte dur, un contexte de violence, qui ne concernait pas l'Afrique au sud du Sahara, mais qui, tout de même, donnait, pour une part, une coloration au rapport encore maintenu dans ce que l'on appelait des colonies, l'Empire, il faut bien le dire comme cela.
Vous écoutez le premier épisode de notre série Noir et notre cause sur RFI consacrée à une aventure unique et fondatrice dans l'histoire de l'émancipation des Noirs, celle de Présence africaine. Une revue mais aussi une maison d'édition et bientôt une librairie, véritable laboratoire scientifique où s'élabore la littérature mais aussi l'histoire des peuples noirs.
Moi j'avais été élevée dans cette idée qu'on était là parce qu'on devait civiliser. Civiliser quoi? Des gens qui n'avaient pas de civilisation, ou bien qui avaient une civilisation tellement primitive que bon, il fallait vraiment les faire progresser.
Liliane Kesteloot, spécialiste des littératures négro-africaines.
Vous savez, la théorie de la colonisation, c'était bien le devoir de civilisation d'autrui. Civilisation voulait dire évolution, progrès, créativité dans tous les domaines de la culture. Ce n'était pas seulement une affaire politique. La politique coloniale se justifiait à l'époque, et je crois que c'est toujours justifié, par le devoir de civilisation.
Nous sommes à la fin des années 40 et à l'époque, Liliane Kesteloot rédige la toute première thèse sur les écrivains noirs francophones. Son sujet est d'abord rejeté par l'université de Louvain, qui ne voit pas l'intérêt de se pencher sur la littérature noire, mais l'université de Bruxelles l'accepte. C'est ainsi que Liliane Kesteloot débarque à Paris à la rencontre du cercle de présence africaine dont elle dévore les numéros.
J'ai été spécialement touchée par le numéro sur le monde noir, parce qu'il était davantage orienté sur la culture, et qui prouve qu'il y a une civilisation. Et pour moi, ça semblait fondamental.
Eh bien, je voudrais m'adresser aux jeunes.
Allioune Diop, directeur de présence africaine.
L'Afrique noire est une civilisation orale, qui ne s'est pas encore révélée à elle-même ses propres dimensions et sa diversité. L'Afrique ne se possède pas encore elle-même, elle n'est pas encore un projet pour elle-même. Elle ne se parle pas directement, sinon par culture occidentale interposée. Les ethnies s'ignorent, sont enfermées dans leurs limites linguistiques. Le réseau de circulation des nouvelles, des informations et des échanges culturels passe par les capitales occidentales. Bref, il n'y a pas d'opinion publique africaine autonome, compétente et responsable. Je pense que la mission des jeunes est de songer à cette fragilité et d'organiser l'exercice de leur responsabilité en venir en fonction de cette situation de fragilité extrême.
Je me souviens qu'à l'époque, nous étions des jeunes étudiants fiévreux autour d'Alioune Diop, autour de sa personnalité brillante, rayonnante. Et il nous ensemençait l'esprit de mots frais qui nous permettaient de traverser le plus chaud de tous les déserts.
Paulin Joachim, poète béninois.
C'était un homme d'ensemencement. Il voulait former autour de lui des combattants, des soldats de la négritude, des soldats qui porteront partout la lumière négro-africaine, même dans les coins les plus reculés, même dans les coins les plus hostiles. Et c'est ainsi qu'il nous envoyait à droite, à gauche, dans les villes de France, pour porter la parole noire à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Et moi-même, j'ai eu à faire des conférences à Lyon, à Montpellier, dans les universités. C'était une découverte pour ces jeunes gens qui ne connaissaient l'Afrique que comme un coin de sauvages, la patrie des illettrés, des mangeurs d'hommes, des cannibales. Nous voulions montrer que nous n'étions pas seulement des peuples de la danse, que nous étions aussi des peuples de culture. Et cette culture-là, nous voulions la porter au festin de l'humanité. Le rendez-vous, ce que j'ai appelé le rendez-vous avec Césaire, le rendez-vous du donner et du recevoir.
Et entre 1948 et 1950, c'est le moment où a pris forme un numéro qui était vraiment emblématique, qui était un numéro spécial, numéro 9, Le Monde Noir, sous la direction de Théodore Monod, mais avaient participé tous les grands noms qui s'étaient ralliés autour de présence africaine. Il y avait bien sûr Georges Balandier, Senghor, il y avait des poètes aussi, enfin, Rabbe Manozar, bien sûr. J'ai entrevu à l'époque Rabbe Manozar, enfin, j'ai entrevu sa présence, parce qu'effectivement, il avait été durement frappé par la répression contre la révolte malgache de 1947. Et ce n'est que par la suite qu'il a pu vraiment physiquement rejoindre ce groupe-là, dont il n'était pas une des figures les moins attachantes et les moins importantes.
Roland Collin insiste sur la révolution intellectuelle initiée par les nouveaux soldats de la culture nègre. Présence africaine à Pignon-sur-Rue, la revue est devenue librairie, puis maison d'édition en plein quartier latin. Les intellectuels parisiens noirs suivent le mouvement, mais les temps de la décolonisation sont durs pour présence africaine et son inventeur, Alioune Diop.
En 1952, nous avons eu des difficultés, d'ordre matériel et politique. Jusque-là, nos démarches auprès des gouvernements africains, à Dakar, c'était une fédération à l'époque, étaient soutenues simultanément par les différents mouvements politiques qui nous acceptaient malgré leurs divergences. Le RDA, le Parti Socialiste Lamingué, le MRP, etc. nous acceptaient. Mais à un moment donné, je ne vais pas donner le détail, n'est-ce pas, on nous a tendu un piège et j'ai été mis en chômage comme professeur. Et je suis resté chômeur pendant de longs mois. Et à la suite de cela, les imprimeurs nous ont accablés de factures et de procès. Si bien que l'apparition de la revue a été suspendue entre 52 et 55, si ma mémoire est bonne. Pas d'activité donc pendant quelques années. Mais à partir de fin 54 et en 55, nous avons repris nos activités avec des moyens très modestes, bien sûr, parce que ceux qui étaient autour de présence africaine avaient plus que jamais de la foi pour leur peuple et étaient plus que jamais décidés à lutter.
quand j'arrive à la présence africaine pour la première fois, c'était déjà rue des Écoles, ce n'était plus à la rue Descartes.
Liliane Kesteloute.
Et donc là, c'était véritablement le rendez-vous de tout le monde lettré et beaucoup d'étudiants, des écrivains qui passaient, en particulier pendant des vacances. Il y avait ceux qui revenaient d'Afrique, il y avait beaucoup d'entiers, il y avait des gens comme René Depestre, justement, de temps en temps. Il y avait surtout des gens comme Saint-Ville qui était là, Léonard Saint-Ville. Moi, j'ai connu à l'époque Glissant, Édouard Glissant. Il y avait toute la famille Diop, entre autres David Diop, le fameux poète qui revenait de Guinée. Je rencontrais beaucoup de gens, je ne connaissais pas nécessairement leurs noms. Je les ai connus après, petit à petit. Puis surtout, c'était très intéressant. Et puis, à cette époque-là, présence africaine débordait sur le café d'en face qui s'appelait le Celtic. Le Celtic était très ouvert, pas comme aujourd'hui, était très ouvert à ce public qui restait longtemps et consommait peu. Mais en tout cas, le tenancier avait un café qui était souvent plein. Et c'était là aussi que se poursuivaient les discussions. Commencer dans présence, à un certain moment il fallait partir de la librairie, alors on allait en face et on discutait à perdre haleine avec des gens. Quand Cheikh Anta Diop était là et tenait table ouverte, ça pouvait discuter jusqu'à 10h du soir ou 11h du soir. Le café oubliait de fermer pratiquement et Cheikh Anta parlait avec un public attentif d'étudiants qui fréquentaient donc la Sorbonne et autres lieux de science.
Je me souviens qu'on a refusé une thèse à la Sorbonne à notre ami, le regretté Cheikh Anta Diop, parce qu'il parlait de l'antériorité de la culture négro-africaine. C'était un égyptologue. Sa thèse a été refusée par ses professeurs de la Sorbonne. Vous voyez, ce sont des actes de racisme intolérables.
Paulin Joachim.
Nous devons tout ça à Aline Diop. Et il a été le premier à accepter des manuscrits d'Africains que les maisons d'édition françaises refusaient. Parce qu'elles pensaient peut-être que nous n'écrivions pas français, mais petits nègres. Ce qui n'était pas vrai.
Paulin Joachim, l'une des voix de présence africaine. Il revient sur les difficultés de publication rencontrées par Cheikh Anta Diop, le précurseur de l'égyptologie africaine. Car Sarah Friot-Salgas, il faut à ce moment-là initier, inventer tous les récits noirs. Il faut inventer le récit de l'histoire de l'Afrique, par exemple. Ce n'est pas une mince affaire. Quel est l'enjeu ?
Non, et c'était un des enjeux, l'enjeu avec la fameuse phrase de Césaire « Laisser entrer le peuple noir dans l'histoire ». Un des actes de Cheikh Anta Diop, c'était de proposer une nouvelle histoire, une nouvelle vision de l'histoire africaine. Qu'on adhère ou pas à ce qu'il proposait, c'était nécessaire de faire une nouvelle proposition, c'était nécessaire qu'on le publie, et c'était aussi ça l'engagement d'Alioune Diop, c'est de donner la parole à une proposition historiographique qui était celle de Cheikh Anta Diop et qui était une réponse à la colonisation. Voilà, vous estimez qu'on n'a pas d'histoire. Moi, je vous propose une histoire de l'Afrique. Et j'ai le souvenir que Balandier a raconté la soutenance de thèse de Cheikh Anta Diop. C'était extraordinaire. Il y avait tous les jeunes étudiants noirs africains qui étaient là, qui étaient présents, parce que c'était fou qu'un jeune historien puisse dire ça à la Sorbonne. Après, en effet, ça a été compliqué pour lui.
Rappelons-nous qu'ils ont été les premiers.
Voilà, mais le jour de sa soutenance de thèse, Balandier en parle comme un événement très fort dans sa vie, aussi symbolique. Quoi. C'était un acte politique que Alioune Diop a relayé en le publiant.
Et Alioune Diop a donc publié tous les travaux scientifiques, iconoclastes et violemment contestés par l'université parisienne de Cheikh Anta Diop. Et c'est probablement l'une des publications les plus importantes de présence africaine. Vous diriez ça, Sarah Friot-Salgas ?
Oui, c'est une des publications qui a été les plus polémiques, les plus importantes, en effet. Mais la force de présence, c'est d'avoir constitué une sorte d'archive de l'histoire de l'Afrique, en fait, et d'avoir fait appel à plein d'historiens qui ont été publiés dans la revue. Voilà, c'est ça.
Joseph Kizerbo.
Enfin, tous les gens, tous les jeunes historiens, tout le monde a... Et c'est ça qui est important. Il y a cette publication en 54, mais vraiment, la compilation de tout est une force extraordinaire. C'est une vraie archive très forte.
Au fond, Sarah Friot-Salgas, quelle est la place de l'œuvre d'Alioune Diop dans l'histoire? Allez, rien que ça.
Je pense que tout simplement, sur en tout cas la période de l'après-guerre jusqu'aux années 70, sans présence africaine, on ne pourrait pas écrire l'histoire politique et intellectuelle du panafricanisme. Parce que moi, je pense vraiment que ça s'inscrit dans le panafricanisme, parce qu'on parle beaucoup de l'Afrique, hein, mais c'est aussi les Antilles, hein, c'est très important. Et ça a constitué la bibliothèque dans laquelle on peut se servir pour comprendre les années 50-60 et l'engagement politique, culturel des uns et des autres, et de gens très très différents. Et d'une Afrique plurielle, en fait, d'un engagement pluriel des militants et des intellectuels. Pas d'un discours, des discours.
Et des discours que nous allons retrouver dans les deux épisodes suivants, à l'occasion des congrès des artistes et écrivains noirs, et à l'occasion également de ce Festival des Arnaques de 66 à Dakar. Mais ça, c'est dans deux semaines. Je vous remercie, Sarah Frioux-Salgaz, de nous accompagner sur cette série, ainsi que de partager vos archives personnelles. Tous nos remerciements également à Jacqueline Sorel, ancienne productrice de RFI, ainsi qu'à notre documentaliste Françoise Delignon pour les archives sonores de RFI et de l'INA. C'était Génération Nègre ou la Genèse de Présence Africaine, une émission de La Marche du Monde, écrite avec Amaury Auchard et mise en onde par Cécile Compéani. Podcastez, téléchargez, écrivez-nous vite sur Facebook. Cette émission, c'est la vôtre.